Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out, un épisode qui sent le soleil, puisqu'aujourd'hui c'est le début de la saison des festivals pour Sold Out. Et quand on parle de festival, il fait bon, on imagine l'été. Et aujourd'hui, on file à Montpellier. Salut John.
Salut Marc.
Tu peux nous expliquer ce que tu fais ?
Je suis le fondateur et directeur général du festival Palma Rosa à Montpellier.
Ah, Palma Rosa. Pourquoi ça s'appelle Palma Rosa d'ailleurs ?
Alors ça, il faut demander à ma compagne qui a trouvé le nom, parce que la société qui porte le projet s'appelle Palmae, qu'on a créé avec mon associé Olivier, et on voulait quelque chose avec la même racine. Ma compagne étant naturopathe, on s'est dit que pourquoi pas une huile essentielle pour nommer le festival, et Palma Rosa nous a tout de suite sauté aux yeux. On a dit bien feu, évidemment, c'est ça, et ça a été très naturel, et on s'est dit c'est comme ça qu'il faut appeler notre bébé.
Voilà, ça sort d'un endroit où vous ne pouvez pas l'imaginer.
Non, et ça sort d'une soirée raclette même, pour tout te dire.
Ah, on va y revenir à cette soirée raclette et sur plein d'autres choses, mais je voulais venir, vous qui nous écoutez, vous dites qu'est-ce que c'est que cette histoire de festival Palma Rosa, de festival à Montpellier ? Eh bien oui, peut-être vous ne le connaissez pas ce festival, c'est un festival à taille humaine, c'est un festival qui mérite d'être suivi avec un line-up vraiment très cool et super stylé, qui a un peu surpris tout le monde d'ailleurs tellement il est super. Et on va revenir sur la genèse de ce festival, sur l'idée, sur le parcours de John, dans cet épisode de Sold Out qui commence maintenant.
Est-ce que tout est prêt ?
Oui, monsieur le directeur.
Bon, alors je vais faire commencer.
On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de choses vécues par des professionnels du spectacle vivant.
Parfois je me demande ce que je fous dans ce métier.
On parle de spectacle, on parle de spectateur. On parle de producteur, on parle de billets vendus.
On parle d'humain, non ?
Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier, hein !
Sold Out.
Sold Out.
Le podcast de Delight.
Le podcast de Delight.
Je suis John Bertrand, le fondateur et directeur général d'un chouette festival à Montpellier qui s'appelle Palma Rosa.
Premier billet vendu.
J'imagine que ça doit être un billet pour Valentin Stipp, un disciple de Nicolas Jarre à Lantirouille à Montpellier en 2013.
Dernier billet vendu ?
Ça doit être il y a quelques minutes pour Palma Rosa 2024.
Sold Out saison 5, épisode 24, avec John Bertrand, directeur général et fondateur unique, hein, pas cofondateur, fondateur du festival Palma Rosa à Montpellier, enregistré dans les bureaux de Delight au début du printemps 2024. Alors John, tu sais qu'on commence souvent à parler du parcours de nos invités ici dans Sold Out. Et parfois, on a des gens qui ont fait des études de médecine ou des études de mathématiques appliquées puis qui se retrouvent producteurs de spectacles, d'autres qui directement étaient musiciens. Toi, c'est encore autre chose, t'étais un sportif de haut niveau.
Ouais. Pas du tout dans la musique,
pas du tout.
Un profil, pas du tout une famille de musiciens, plutôt effectivement axé dans le sport, mais avec tout le temps de la musique à la maison. Je grandis avec du rock des années 60, constamment à la maison, en voiture, etc. Donc j'ai toujours une oreille qui a été bercée par la musique, mais non, pas du tout baigné. J'ai deux mains gauches, je suis pas du tout fait pour jouer de la musique, à mon grand regret. Et plutôt effectivement dans le sport où je baigne dès mon adolescence, ma préadolescence, dans le volley en fait, et je deviens très vite à 16 ans et demi sportif de haut niveau.
Bon, alors il faut que nos auditeurs le sachent, parce qu'ils ne peuvent pas l'imaginer, mais tu es très grand, tu mesures combien de jeunes ?
Moi, je fais 2 mètres.
Ouais, tu fais 2 mètres, je veux dire qu'on ne vit pas exactement au même endroit.
Non, ce n'est pas les mêmes problématiques.
C'est ça. Mais donc volley et volley pro quoi, tu étais joueur pro ?
Ouais, je bascule très rapidement en 2007 au centre de formation à Alès, qui évolue en deuxième division, en Ligue B. On est champion de France en 2008, accession en première division. Puis en 2009, je pars à Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Où, d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'en discutais avec Jérôme des Vieilles Charrues l'autre
Jérôme
jour
Traoré,
au téléphone.
Ouais.
On est passé par le même club, lui et moi. Alors lui, plutôt par la branche communication que pas par le terrain. Mais en fait, il est passé 10 ans avant moi au club de Saint-Brieuc, avant de passer par les Vieilles Charrues.
C'est quand même incroyable, toutes ces coïncidences. C'est fou. Alors le volley, ça dure pour toi, ça dure 5 ans, de 2007 à 2012, c'est ça ?
Ouais, professionnellement, ça dure 5 ans, jusqu'en 2012, où je jouais à Avignon. Et en fait, je suis recruté par une université américaine qui s'appelle Long Beach en NCAA, qui est le niveau universitaire, mais c'est un niveau qui se rapproche du niveau professionnel en France, où on joue dans des salles de 15 000 personnes. C'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer ici en Europe. Sauf qu'entre-temps, donc je signe ma bourse étudiante là-bas, entre-temps, il y a les attentats à Boston, du marathon de Boston, et en fait, mon visa américain est repoussé, et en fait, je perds un des semestres. Et quand on est sportif étranger, pour valider valider ses semestres et son diplôme américain, on a besoin de tous ces semestres et j'en perds un, donc ça n'a plus de sens pour moi de partir aux États-Unis, même si l'expérience aurait été folle. Et du coup, c'est un peu le rêve américain qui s'effondre pour moi. C'est un peu difficile cette période-là parce que c'est la fin du haut niveau pour moi. Et en fait,
le fait que tu n'ailles pas aux États-Unis, c'était la fin du haut niveau.
Ouais, en fait, parce que consécutivement à ça, je me blesse au genou. Je joue en 4e division sur Arles pour m'entretenir, mais je me blesse au genou et à l'épaule. Là, je sens que mon corps me reproche les 10 années de haut niveau que je fais avant. Et du coup, c'est là où je commence à penser reconversion parce que à ce moment-là, j'ai qu'un petit BTS communication que j'ai fait parce que je devais le faire et continuer des études à côté du volet. Mais j'ai pas grand-chose et je me dis, c'est peut-être le moment de penser à reconversion.
Et la reconversion, elle se fait dans une SMAC ?
À Paloma, ouais. À l'ouverture de Paloma, en fait, l'inauguration. Moi, je suis pris en petit contrat étudiant comme ça pour l'accueil artiste, la gestion du bar, etc.
SMAC, salle de musique actuelle, hein, ce réseau de salles géniales qui est en France.
Exactement, et dont Paloma est l'une des plus belles en France, où tous les artistes français quasiment font des résidences à Paloma et commencent leur tournée avec Paloma. Et donc, je commence à Paloma et à l'accueil artiste, en fait, je rencontre les C2C et je me dis que y a un truc à faire parce que quelques années avant ça. Ouais.
Mais juste, je t'interromps parce qu'il y a tellement de gens qui rêvent de bosser dans le spectacle. Comment tu fais pour te reconvertir du haut niveau en volet à accueillir un artiste où tu rencontres C2C à Paloma?
Je dirais que ça commence 6 ans avant ça. Moi, je suis né à Nîmes. J'ai grandi à quelques centaines de mètres des arènes de Nîmes, quand même l'une des plus belles salles de concert en France. Et en 2007, je prends l'une des plus belles gifles de ma vie avec le concert de Daft Punk, la veille de mon oral de bac français. Et en fait, je suis marqué par les gens qui sont sur le côté de la scène, qui sont dans l'ombre. Et je me dis, mais comment ils font pour être là ? Qu'est-ce qu'ils font ? Et en fait, je me rends compte bien plus tard qu'il y a Pedro Winter. Et je me dis, mais moi, c'est ça que je veux faire. Je veux pas être dans la lumière, je veux être dans l'ombre, je veux organiser le truc, je veux voir comment ça se passe, comment on fait, comment on fabrique. Et quand je pense à cette reconversion après le haut niveau, je me dis, je veux travailler là. J'ai toujours baigné dans la musique, j'ai toujours eu de la musique dans les oreilles. Et Paloma anime justement ce monde et je me dis que c'est le moment ou jamais.
Évidemment. Mais entre ta volonté et le fait qu'il t'accepte, comment t'as fait pour. Parce que tu mesures 2 mètres, tu as eu peur?
Non, il n'y a pas eu de menace, il n'y a pas eu d'arme blanche, rien de tout ça. C'est un ami à moi, Simon, que j'embrasse, qui travaille pour le Club Pernod, qui travaillait pour le Club Pernod à l'époque, qui travaille en lien avec Paloma, qui met un petit coup de pouce sur mon CV. Et puis je les rencontre, et puis de toute façon, ils cherchaient beaucoup de monde, donc je pense qu'il n'y a pas eu un vrai filtre, parce que j'étais loin d'être le profil idéal pour eux, évidemment. Mais ça se fait, et je fais ce que j'ai toujours fait par la suite. Je mets des grands coups de pied dans les portes et je vais là où c'est écrit interdit de rentrer.
Ah ouais, c'est ta marque de fabrique.
Ouais, oui, je me dis que si je veux travailler là-dedans, il faut se faire sa place, il faut aller serrer des mains, il faut aller parler aux gens, il faut s'imposer, il faut se présenter, dire qui on est, ce qu'on veut faire. Pour moi, c'est primordial dans un milieu qu'on dit fermé. Qu'il est, on va pas se mentir. Et donc, j'essaie de rentrer partout, de rencontrer et d'échanger avec les gens et d'être hyper volontaire et curieux de tout. Ça, je pense que c'est l'une des qualités premières, c'est d'être très, très curieux.
Et curieux avec les C2C, on en revient à ton anecdote de tout à l'heure. Donc, tu rencontres les C2C et là, tu te dis quoi ?
Ouais, en fait, je les rencontre parce que je prends l'ascenseur avec eux, ouais, simplement. Ils sont en train de rentrer dans leur tourbus et je dis à ma responsable que je veux les rencontrer absolument. Elle me dit, ouais, mais ils sont en train de partir. Je cours, je rentre dans l'ascenseur et je passe l'ascenseur avec eux. Je rencontre de leur tour manager à l'époque et j'échange avec eux. Et en fait, il s'est tissé des liens avec Pfel, un des C2C, que j'ai suivi ensuite sur quelques dates en tournée.
Pour comme le plaisir.
Ça. Ouais, pour voir. Je prenais mes billets de train, ma chambre d'hôtel et j'allais voir comment ça se passait. De là, j'ai rencontré Thomas d'Allo Floride. Sur un festival.
Producteur.
Ouais, exactement. Et je l'ai rencontré, on a pas mal échangé. Je lui ai dit, moi, c'est ce que je veux faire, il faut que tu me mettes un pied dedans.
Ouais, c'est intéressant, ça veut dire que personne ne t'attend, en fait, dans ce milieu aussi. Il faut ruser pour faire partie de l'image, hein. C'est ça que tu nous dis ?
Oui, c'est ça, parce que moi, à ce moment-là, j'ai 23 balais, j'ai pas les codes, je sais pas comment ça se passe. Je suis pas du tout de ce milieu-là. Je viens d'un milieu du sport de haut niveau, et en fait, je sens très vite que, que je suis pas du sérail, donc on prend peut-être un peu de haut, malgré mes 2 mètres, tu vois. Et ça, on te le fait comprendre. Du coup, si tu te fais pas ta place toi-même, si tu t'imposes pas, ça fonctionne pas.
Et alors après, tu t'imposes non plus à la SMAC Paloma, mais dans tout un tas de festivals, l'Insane Festival, Positive Festival, d'autres. Et là, tu deviens, pendant 5 ans, chargé de prod. C'est encore un autre métier que la carrière artiste. Tu te fais de la production.
Ouais, je suis même agent d'artiste à ce moment-là aussi. Oh. Je fais de la prod, je participe à la création du festival Insane, je fais de la prod. Je suis agent d'artistes, d'artistes comme Théo, Romulus. Je pars en tournée avec eux, donc si tu veux, j'apprends beaucoup de métiers en même temps. Je découvre pas mal de choses et encore une fois, je suis curieux. Je parle aux techniciens pour savoir pourquoi est-ce qu'ils branchent tel type de câble. Je veux tout savoir et ouais, je veux comprendre. J'ai envie de savoir comment on fabrique un show, comment ça se passe, comment l'industrie fonctionne. Et c'est très très large. C'est pour ça qu'il y a autant de métiers différents.
Et qu'est-ce que tu apprends le plus à ce moment-là, en fait ? T'apprends que le diable se cache dans les détails ? T'apprends au contraire à prioriser ?
J'apprends qu'effectivement, le moindre détail est important. J'apprends que l'artiste est au cœur de tout. J'apprends que s'il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de show et qu'on doit... Tous les corps de métier autour de l'artiste doivent se mettre à son service, quoi qu'il arrive. Bien le conseiller, lui trouver des dates, bien l'accompagner. Et donc oui, c'est hyper... cette période-là est très enrichissante et on en vient même à, avec Pliette Production, à récupérer la direction d'un des clubs emblématiques de Montpellier, qui est la Villa Rouge. Et là, je passe 1 an et demi à la direction d'un des plus grands clubs du sud de la France. Encore un métier que je connais pas.
Un club, c'est-à-dire une boîte.
Une boîte de nuit. Une boîte de nuit. Encore un métier que je connais pas.
C'est très différent.
Ouais, parce que pour moi, la boîte de nuit dans le sud, c'est l'image du Margoulin qui a 50 ans.
Avec des feux d'artifice dans les bouteilles de champagne.
Ouais, voilà, exactement. Tout ce que j'aime pas, tout ce que je veux pas. Et je fais ça et je reprends après une petite pause de 1 an où je pars en Australie et en Nouvelle-Zélande et je reviens en France avec plein d'idées. Et cette Villa Rouge, on en fait un club qui est un ovni. Parce qu'il y a un aquarium au milieu du club, on fait un potager, enfin bref, et on invite la crème de ce qui se fait de mieux en musique électronique dans le monde pendant 1 an.
Ce qui va sans doute influer derrière sur Palmarosa, on en parlera dans une seconde. Mais du coup, alors, moi j'ai quand même une question là-dessus. Et je côtoie pas mal de jeunes étudiants ou étudiantes qui rentrent dans le secteur, et c'est vrai que quand on commence dans ce secteur, c'est quand même pas un secteur qui paye toujours très bien. Et c'est le moins qu'on puisse dire, c'est juste d'une litote. Mais après, ça va mieux souvent, mais au début, c'est chaud. Est-ce que toi, t'as hésité à arrêter en me disant mais je vais jamais y arriver quoi, j'apprends, j'adore, c'est ma place, mais je peux pas vivre de ça. Est-ce que tu t'es posé cette question ?
Je n'en ai même pas vécu pendant des années au début. Je me saignais, je suis retourné vivre chez mes parents, mais c'était viscéral pour moi de travailler là-dedans. Il était super important que je réussisse et j'ai sacrifié ma vie perso, etc. pour le faire. Ouais, c'était super
bien
important.
Ta vie perso quand même. Enfin, en tout cas, t'as sacrifié ton confort.
Oui, oui,
non,
oui.
Plus que ça.
Ah oui, oui, non, mais oui, j'ai pas eu de compagne pendant 2 ans parce que je faisais que ça. Ça a été très compliqué. Si tu veux, moi, ma formation sportive de haut niveau, j'ai pas eu d'adolescence. Je partais pas en boîte de nuit étant jeune et tout. J'avais une hygiène de vie. Je fumais pas, je buvais pas d'alcool, etc. Et j'ai continué ça, si tu veux, à avoir cette rigueur là pour me dire, je vais continuer à avoir une rigueur hyper stricte pour y arriver. Et je veux réussir dans ce métier. Et j'ai mis tout en place pour le faire, même si effectivement c'est très très compliqué parce que quand t'es pas du sérail, quand t'es pas musicien, quand t'as pas de formation, c'est compliqué.
Ouais. Le ticket d'entrée est très lourd à payer, mais il y a une place à faire.
Ouais, ouais. Mais comme je te dis, c'est des grands coups de pied dans les portes, c'est important. Ouais.
Alors après, ça se passe plutôt à Paris, donc on quitte la Villa Rouge à Montpellier, tu montes à Paris, t'es chez Gaïa Prod, Gaïa Production, c'est ça, et tu deviens chargé de production, alors pour le coup d'une boîte établie hein, en tout cas.
Ouais, petit intermède de quelques mois à Gaïa Production, mais dans le spectacle. Le vivant. En fait, si tu veux, je monte à Paris parce que je quitte Montpellier, ça se passe pas très bien avec mon ancienne boîte pour laquelle je travaille. Je monte à Paris pour changer d'air et me dire, voilà, je vais essayer de trouver un taf dans la production. J'arrive à Gaïa Production et là, c'était du spectacle vivant. C'est un monde complètement différent, un univers complètement différent, des gestions différentes de théâtre, de vente de places, de mise en scène que je... Voilà,
c'est différent des festivals et différent d'un club.
Exactement. Je découvre un nouvel univers. Je m'occupe des tournées de Maxime Gasteuil, Artus, Laurie... donc là, voilà, c'est vraiment deux salles, deux ambiances pour moi. Et je me rends compte très vite que bah, voilà, j'ai un attachement viscéral plutôt à la musique. Moi, j'ai, comme je te disais, j'aimais dans le rock étant petit et tout, j'en suis très loin. Et ça me manque. Donc, je garde dans un coin de ma tête qu'on avait avec mes amis d'enfance l'envie de créer un festival dans le sud chez nous. Et ça me trotte quand même.
Sold Out.
Sold Out.
Le podcast de Delight.
Le podcast de Delight.
Bon, alors, John, on en vient à Palma Rosa, justement, ce festival que tu as envie de créer chez toi. Mais à cette époque-là, il n'a pas encore ce nom-là. Mais avant de parler du moment où vous avez l'idée de cette fameuse raclette, il y a une expérience qui est un peu l'empreinte de tout, qui permet de finalement d'être la genèse de Palma Rosa.
Ouais, une expérience géniale de 3 ans au sein du groupe Petite Lune, qui est un groupe qui gère plusieurs tiers-lieux à Paris, des tiers-lieux éco-responsables, qui fonctionnent uniquement en circuit court, avec des produits et des petites brasseries. Et voilà, on travaille avec des EHPAD pour le nettoyage des verres, etc. Et c'est quelque chose qui, fondamentalement, change ma vision du divertissement, pour moi, de la manière d'en proposer de manière plus vertueuse, plus responsable. Et je me dis qu'en fait, il est possible, selon moi, de proposer un festival à grande ampleur avec une programmation internationale sur ce modèle-là. C'est très ambitieux à ce moment-là parce que je pars de rien, j'ai des millions d'idées en tête, mais je sens qu'on peut le faire et j'ai envie qu'on le fasse.
Et c'est pour ça aussi qu'on est là ensemble aujourd'hui, hein, parce que voilà, moi j'adore justement ce festival avec du sens, avec une cause et en plus qui reste à taille humaine. Mais on sent que c'est vraiment l'empreinte même du festival, en fait, ça.
Ces 3 ans passés à la direction de projet de lieu à Paris, et ça me donne cette empreinte-là de me dire on va essayer de proposer avec mes amis d'enfance un festival à Montpellier, chez nous, un lieu qu'on maîtrise, un festival indie pop-rock, parce que c'est la sensibilité culturelle qu'on a. Et en 2022, avec mon associé Olivier, on se dit ben voilà, c'est le bon moment pour tous les deux. Moi, j'ai envie de quitter Paris, j'ai envie de revenir un peu au chaud. Lui est en Nouvelle-Calédonie, il revient en France lui aussi. On se dit ben, je pense que c'est le bon moment. Et on se retrouve à une soirée raclette un soir de Noël.
Mais qu'est-ce qui se passe alors ce soir-là ?
Alors, on mange beaucoup, comme d'habitude. On est assez connus pour ça. Et les amis d'enfance qu'on a qui travaillent dans plusieurs univers différents se mettent autour de nous. Et en fait, il y a une sorte d'émulation qui se fait. Ils disent, bah oui, les gars, il faut le faire, évidemment. Et on a l'idée de créer ce fameux festival qui fonctionnerait uniquement en circuit court avec des acteurs locaux bien ancrés sur le territoire. Et cette idée un peu folle d'un festival qui part de zéro, littéralement, et qui va grandir.
Et vous faites des tableaux Excel, vous faites des prévisions, vous faites des chiffres, ou vous êtes, vous y allez un peu la fleur au
fusil ? On fait beaucoup trop.
Trop de tableaux Excel.
On fait beaucoup trop de tableaux Excel. On essaie, là, c'est la partie la plus dure, c'est d'aller voir les institutions à Montpellier, de les rencontrer. Ça prend du temps, beaucoup, beaucoup trop. Et on se retrouve à officialiser la tenue de la première édition de Palma Rosa le 19 mai 2022 pour une édition le 20 août. Donc 3 mois.
Oui,
3 mois.
Bon,
et l'histoire, c'est que voilà, on a le feu vert de la ville de Montpellier dans des conditions, voilà, ça a été un peu
rocambolesque,
mais on y arrive en bataillant et on fait une programmation bah, voilà, en 3 mois. Donc les artistes pop-rock qu'on voulait, c'est pas possible. Donc on programme de la musique électronique.
Ouais, tu reviens à ce que tu avais appris avant, justement.
Ouais, c'est une programmation par défaut. Alors, on nous le reproche beaucoup d'avoir fait l'électro et puis du rock, de ne pas savoir où on va, sauf que l'ADN même du festival, c'était un vrai festival pop-rock. On a connu, et je tiens à le saluer, il y a un très grand producteur dans le sud qu'il faudrait que tu reçoives, qui s'appelle Pascal Morin-Peck, qui a produit les Live au Pont du Gard. C'était un festival qui était génial avec du pop-rock, de l'électro, et c'est un festival qui nous a tous marqués, qui était génial avec 20 000 personnes par soir. C'était incroyable et on s'est dit qu'on bah voilà, on voulait essayer de refaire ça, quoi.
Est-ce que vous y êtes arrivé ?
Bon, on y est arrivé, oui et non, dans une mesure bien moindre, évidemment, parce que bah, premièrement, on n'a pas son talent, et de deux, on commence, on fait ça en 3 mois. On arrive à faire 5000 personnes sur la première édition.
5000 personnes, l'objectif, c'est de faire combien ? C'était d'arriver à
l'objectif, c'était de faire 6000 personnes, et je crois qu'on fait 5000 en 3 mois. On s'est dit qu'on allait combler les trous en invitant le personnel soignant qui avait œuvré passés pendant le Covid, les pompiers, etc. Et on a eu des très beaux retours de l'hôpital de Montpellier qui nous a félicités pour ça, parce qu'ils ont fait un travail incroyable pendant le Covid. C'était la moindre des choses pour nous.
Vous avez voilà. vraiment invité ?
Ouais, ouais.
C'est génial.
Bien sûr, on a eu plus de 600 personnes du CHU de Montpellier qui sont venues.
T'as un grand sourire quand tu dis ça.
Ouais. Bah, oui, ça me touche parce que j'ai une sœur qui est infirmière et je sais ce qu'ils ont vécu pendant le Covid et c'était, je trouve que c'était la moindre des choses et en toute humilité, voilà, si on pouvait leur proposer quelques heures de spectacle comme ça, c'était très important pour nous. Ouais.
Mais alors là, si je résume, c'est la préfiguration, c'est la première édition en août 2022 de Palma Rosa. C'est de l'électro alors que vous avez un ADN rock. Vous faites quand même pas l'objectif de billetterie, même si on n'est pas loin. Mais donc à la fin, j'imagine que vous perdez des sous.
Ouais, on prend ce qu'on appelle un four dans le milieu.
À ce point-là ?
Ouais, on perd beaucoup d'argent parce que si tu veux, dès le début, on se dit on va rester dans notre ADN, mais même si on voit que les coûts explosent et tout, il est hors de question de travailler avec un brasseur néerlandais ou quoi. On va brasser notre propre bière,
ah, génial.
Ça coûte très cher. On brande notre propre bière, on travaille avec que des prestataires locaux, on ne fait pas venir de la déco de Chine, etc. On n'a pas de plastique, tout ça a un coût, si tu veux.
Les coûts, ils explosent, quoi.
Voilà. Moi, quand on me dit non, mais en fait, là, il ne faut pas... Ça ne sert à rien que tu aies une scène de 100 mètres carrés et tout. Je dis, bah si, justement. C'est pas ce que tu me dis qu'il faut pas qu'on va le faire parce que en termes de crédibilité et tout, on va asseoir le festival comme ça. Et moi, quand on me dit bah non, il faut pas le faire, vous êtes fous, c'est l'argument premier qui me pousse à le faire justement.
Et tu regrettes ou pas ?
Je regrette strictement rien. On perd beaucoup d'argent pour un problème technique d'un prestataire qui nous a fourni les mauvais TPE, terminaux de paiement. Et en fait, on a des gros soucis à partir de 14h où nos terminaux ne marchent plus, on a la queue, une queue incroyable et tout. Et en fait, on se rend compte qu'on nous a fourni des terminaux qui sont obsolètes. Donc voilà, là, c'est compliqué parce qu'on se rend compte que c'est un problème qui est indépendant de notre part, qu'on ne maîtrise pas. C'est terrible comme sensation. On voit qu'on aurait pu équilibrer un festival avec les bars parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde et que ça marchait bien. Et qu'en fait, on se rend compte que voilà, on est en train de perdre de l'argent et qu'on ne peut rien faire pour.
On peut peut-être expliquer aux gens qui nous écoutent, qui doivent le savoir, mais on ne sait jamais, que quand on crée un festival, généralement, la première édition, on perd de l'argent. Et un des trucs qui peut permettre d'en gagner ou d'en perdre moins, c'est que les bars tournent super bien parce que c'est de là dont peut venir la bonne surprise. Hein. Et c'est ce qui aurait pu se passer s'il n'y avait pas eu ces problèmes de TPE.
D'autant plus qu'on a la particularité et la chance, j'estime que c'est une chance inouïe à Palma Rosa d'avoir une clientèle qui est très particulière pour le sud de la France notamment.
Ils boivent énormément.
Alors ils boivent énormément, mais c'est surtout qu'on a une clientèle de 41 ans de moyenne d'âge.
Ah oui.
Et 63% d'un public féminin, ce qui est extrêmement rare. Quand j'en parle avec Shotgun de la billetterie, ils me disent que voilà, c'est l'un des seul festival en France.
Normalement, c'est plus masculin et plus jeune.
C'est beaucoup plus jeune, c'est beaucoup plus masculin. Mmh. Et chez nous, c'est les femmes qui achètent le billet. Et c'est génial, je trouve.
Mais c'est incroyable. Et tu sais pourquoi ?
On a toujours eu un propos sur le festival de défendre la cause féminine. Sur la première année, on a travaillé, et même la deuxième d'ailleurs, avec les Mixes Solidaires, qui est un collectif d'artistes féminines à Montpellier, qui œuvre pour les violences faites aux femmes. On a reversé... une partie de leur cachet, notamment au CHRS Elisabeth Bouissonnade, qui est un centre d'hébergement et de réinsertion pour les femmes qui subissent des violences. En 2022, on était l'un des festivals de France avec le plus d'artistes féminines sur scène. Et pareil pour 2023, et ça, c'est quelque chose dont on est aussi très fiers.
Ouais,
et
puis vous faites pas semblant, c'est un truc que vous avez...
Non, mais c'est comme pour la partie éco-responsable. Souvent, on nous taxe de greenwashing, et ça nous fait mal, parce que vraiment, on met beaucoup de moyens là-dessus. Je pense qu'on fait beaucoup... par rapport aux autres, sans se mesurer aux autres, mais on fait énormément. Et c'est quelque chose qui est très important. On a été nommé au Festival Awards en 2022. Pour la toute première édition, on a fini 4e sur 83 festivals nommés, à côté de grands noms comme We Love Green, par exemple.
Mais donc, à la fin de cette édition 2022, vous vous en sortez avec des dettes et vous vous projetez en 2023 ou pas du tout en disant comment on va faire ?
Si tu veux, oui, on se projette en 2023, mais on se dit, mais comment on va le faire ? En fait, on a des dettes. C'est, encore une fois, c'est viscéral pour nous de dire, il faut qu'on soit là. Et pour ça, bah voilà, j'ai pas dormi pendant 3 mois, essayer de trouver des solutions. T'as la boule au ventre de dire, bah voilà, comment on va payer les créanciers, comment on paye les salaires, etc. C'est très compliqué. À force d'aller sortir, rencontrer du monde et tout, je rencontre Grégory Blanvillain, qui est devenu le troisième associé, notre troisième larron, qui est le vice-président de la CCI de l'Hérault, qui en fait il y a une rencontre humaine d'abord qui se crée, il y a des un vrai échange, un vrai il se passe quelque chose, il croit au projet tout de suite et en fait il nous suit et derrière bah évidemment que c'est beaucoup plus facile avec les banques, c'est beaucoup plus facile aussi et tout s'enchaîne, on monte 2023 et on monte 2023 comme on souhaitait 2022 si tu veux, avec du temps, en mûrissant le projet avec une belle programmation qui nous ressemble. Et Palma Rosa de 2023
né. Ouais, né, il y a tout.
Et René même de ses cendres.
Ouais, ce qui est marrant, c'est quand même, on sent que t'es un idéaliste, mais t'es entouré d'anges, en fait. Il y a tout dans ton parcours des petits anges comme ça il y a un moment qui te permettent de faire avancer des choses, non, je me trompe?
On te dira que je suis un éternel pessimiste, parce que je vois toujours le côté sombre et je fais tout pour l'éviter, en fait, si tu veux. Donc, je l'ai toujours en tête. Le côté négatif, qu'est-ce qui peut arriver, les problèmes qui peuvent en découler et tout, je les ai toujours constamment en tête. Ça me fait des nuits courtes, ça me fait des boules au ventre, etc. Mais si tu veux, ça me permet de pouvoir le prévoir, l'anticiper au mieux et de me dire, ben voilà, on va essayer de tout faire pour que ça se passe le mieux possible.
Mais tu arrives aussi à croiser des gens qui te permettent de rendre les choses possibles.
Ouais, bien sûr. Bah, c'est une chance inouïe d'avoir croisé quelqu'un comme Grégory qui est justement, bah, j'ai pas peur de le dire, sauve le festival. Ouais.
Alors, ce festival, c'est la deuxième édition en août 23. Cette fois, donc, la prog, elle vous correspond plus, elle est indie, pop, rock. Et cette fois, vous vendez 8000 billets.
Ouais, on vend 8000 billets et on en est incroyablement surpris parce que la jauge de la ville de Montpellier qui nous a imposé est à 8000 billets.
Donc faites un complet. Quoi.
En fait, un jour avant le festival, pardon, on est complet.
Voilà.
Et là, on se dit bon, bah c'est assez incroyable. Comment on va pouvoir gérer ça? Tant mieux.
Et comme d'habitude, ça se passe pas comme prévu puisque le problème vient de là où on l'imaginait pas.
À Montpellier, disons.
À Montpellier, on pouvait l'imaginer, mais enfin, à un point là, quand même incroyable, la canicule qui rend le festival très difficile parce que ça joue dans la journée.
Au point que, si tu veux, la veille du festival, j'ai le directeur de cabinet du préfet de l'Hérault qui m'appelle et pour me dire, bah voilà, nous on a une réunion là dans une heure pour savoir si le festival va pouvoir tenir.
Ah, il va être sympa cet appel.
Ouais, je lui dis que je lui confirme qu'il va bien se tenir quoi qu'il arrive. Il était hors de question que ça se fasse pas. Donc on arrive à trouver un deal en mettant des points d'eau, en rajoutant des points d'eau de partout sur le trajet des festivaliers. On leur a offert de l'eau entre les parkings. Et bref, on arrive à le faire, sauf qu'il fait 42 degrés. Et voilà. 42 degrés à Montpellier, en plein soleil, c'est très compliqué. On est très, très surpris parce qu'on pense que les gens vont venir à 17h. Et à midi, avant l'ouverture des portes, il y a 100 mètres de queue devant les portes du festival. Et en fait, le souci, c'est qu'il y a beaucoup plus de festivaliers que de bénévoles qui se sont désistés. On avait plus de 140 bénévoles. On se retrouve avec 63 à l'ouverture des portes.
À cause de la canicule ?
À cause de la canicule, il y a beaucoup de désistements. Donc, on est en sous-effectif au bar et on se fait, comme on dit, rouler dessus.
Et en plus, il y a des embouteillages parce que c'est incomplet. Il y a plein de monde, les parkings, etc. Ce qui fait qu'on est dans une situation inouïe où vous faites un sold out, vous êtes complet, tout va bien, vous avez la prog que vous aimez, mais tu es obligé de monter sur scène pour t'excuser.
Ouais, le show...
Enfin, tu décides d'avoir ce courage-là.
Ouais, les shows se passent super bien et tout, sauf que moi, je ne suis pas content parce que je vois que les gens ne le sont pas et que mon leitmotiv a toujours été d'être dans l'ombre pour rendre les gens contents. Voilà, c'est le métier qu'on fait, je pense. C'est de, voilà, nous, on est les gens de l'ombre qui essaient de faire passer un bon moment au festivalier. Je vois que ça ne se passe pas bien. Je décide, après le show de Franz Ferdinand, de monter sur scène et de prendre le micro pour m'excuser plutôt qu'un post Facebook ou Instagram pour dire bah voilà on s'excuse ou même de rien dire du tout, faire l'autruche. C'est pas comme ça que je vois les choses et je pense que on a toujours décidé avec Palma Rosa d'humaniser la communication et d'être sincère. À chaque fois qu'on a des problèmes, on a été transparent, on explique tout. Pourquoi nos prix sont ça, voilà, on explique de A à Z comment fonctionne le festival, qu'on est indépendant, on a un modèle qui est très rare, on n'a pas un euro de subvention, donc comment fonctionne un festival comme ça. Et là, je prends le micro pour m'excuser du délai et dire que voilà, on est vraiment désolé du fait que les gens ont attendu
et
une heure pour
venir. Comment réagissent les gens?
Ben, ils applaudissent, ça c'est très touchant.
Moi j'ai
ça...
vu des images, toi t'as l'air très, ton visage est fermé. Mais par contre, je vois des gens qui te regardent en applaudissant et en souriant.
Ouais, il y a même des vidéos de ça. Je t'avoue que c'est extrêmement touchant. Ça fait chaud au cœur parce que pour moi, à ce moment-là, je vais me faire huer, je vais me faire siffler par les 8000 personnes. Et il y a une réaction du public. Mais encore une fois, je le dis, à Palma Rosa, on a un public exceptionnel et qui applaudissent et qui en fait comprennent. Et qui disent non mais ok, il y a pas de sujet, pas de souci. Donc ça c'est un des moments où ça t'as la gorge nouée en repartant et je me souviens d'un câlin avec mon associé qui me dit ben t'as bien fait de le faire. En fait c'était important de le faire à ce moment-là.
Sold out,
le podcast de Delight.
Ouais, c'est important, John, ce qui se passe à ce moment-là, parce que ça ne s'arrête pas à ce moment sur scène où tu t'excuses. Derrière, vous prenez la parole sur les réseaux sociaux pour donner plus de contexte. Et en même temps, c'est paradoxal, parce qu'en même temps, vous êtes content aussi quand même de ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas juste à s'excuser, quoi. Mais vous décidez de faire un social club, de réunir des festivaliers pour essayer de tirer les enseignements de ça et de s'améliorer.
Ouais, on est content, mais en même temps, on est perfectionniste et on n'est jamais satisfait quand il y a des gens qui râlent. Donc, on prend le point de faire un sondage aux 8000 festivaliers. On a pas mal de retours et notamment on se dit ben voilà on va essayer d'améliorer ça. Et comment améliorer mieux un festival que de le créer et de le fabriquer avec des festivaliers? Et on crée le Palma Rosa Social Club. C'est une association de festivaliers, de régisseurs, d'étudiants qui nous aident à monter une édition plus vertueuse de Palma Rosa sur tous les points.
Et là, on pourrait se dire que c'est un acte de communication, si on est un peu cynique, mais alors pas du tout, parce que moi, je dois dire, et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis permis de t'inviter à ce micro, que je suis bluffé de voir que cette année, vous restez sur la même jauge, 8000 billets comme objectif par soir, mais, en doublant la superficie. C'est-à-dire que on n'est pas du tout ici dans du capitalisme débridé ou dans je ne sais quoi, c'est même totalement anticapitaliste, surtout quand on voit votre line-up, qui est assez dingue, avec Phoenix, Gossip, Tom Odell, The Kills, les Hives, Solwax. On pourrait se dire, pour rentabiliser ces cachets-là, on va aller jusqu'à 10 000, c'est pas très grave. Eh ben non, on reste sur 8 000 et on double la surface.
Ouais, on double la surface pour répondre aux attentes des festivaliers qui ont été déçus sur les points d'ombre, etc. Sur le fait d'avoir un site beaucoup plus grand, beaucoup plus confortable. C'est très important pour nous de répondre à ces sujets-là. Mais ça va de l'accessibilité PMR à comment on peut limiter encore plus nos émissions, nos déchets, valoriser. On va collecter l'urine en 2024 et la transformer en biosolution pour les agriculteurs du territoire aussi. Voilà, c'est plein d'actions qu'on travaille tous les mois avec ce Social Club pour créer un festival voilà, fait par des festivaliers, pour des festivaliers et essayer de faire l'édition la plus vertueuse possible avec néanmoins une programmation pop-rock qui est ambitieuse et qui a pour but d'asseoir le festival toujours un peu plus dans le sud de la France comme l'un des plus grands festivals pop-rock.
C'est difficile de créer une nouvelle marque, d'exister, d'émerger, de raconter l'histoire.
C'est très compliqué. C'est très compliqué quand tu es un festival indépendant, qu'encore une fois, tu n'as pas de subvention, que tu es...
Aucune subvention.
Non, on n'a pas un centime d'aide de subvention. On n'a pas de... J'ai pas un groupe américain derrière moi. On n'a pas de financement privé. C'était Palma Rosa est parti uniquement avec des fonds propres et ensuite l'aide des banques et d'un associé qui a poussé le truc. Donc c'est très, très compliqué. C'est un modèle qui est vraiment atypique.
C'est une SAS ou c'est une société?
C'est une SAS.
Ah oui, donc c'est complètement atypique, ouais.
Ouais, c'est très atypique, mais voilà, on l'a voulu comme ça. On se bat au quotidien pour essayer de le faire vivre, mais oui, pour répondre à ta question, c'est très compliqué d'asseoir le projet médiatiquement aussi, de faire comprendre aux institutions que Palma Rosa, ça apporte près de 400 000 euros de retombées économiques sur la ville et la métropole de Montpellier, que ça devient l'un des acteurs culturels les plus importants sur le bassin montpellierien aussi. Donc voilà.
C'est souvent on dit qu'un festival il faut 3 ans, quoi. Donc c'est peut-être cette année, j'espère.
On l'espère, oui, on croise les doigts.
Qu'il se passe quelque chose. Et en tout cas, déjà, vous avez surpris tout le monde avec ce line-up qui est super joli.
Merci.
Non pas que celui d'avant n'était pas aussi joli, mais c'est impressionnant quand même, quoi. Parce que 8000 personnes, c'est pas beaucoup, hein, c'est un gros zénith.
Ouais, il est plus à l'image de ce que j'avais envie que ce soit Palma Rosa, un bébé qui me plaise et qui, en fait... Comme je l'ai dit souvent, on ne fera jamais de musique urbaine ou de musique électronique pour vendre du ticket. Palma Rosa, s'il est aussi atypique, c'est parce qu'on lui donne une ADN qui est spécifique.
Ça veut pas dire qu'on regarde de haut ces musiques-là, ça veut dire que c'est pas toi, ton savoir-faire, ni ton envie.
Pas du tout. Encore une fois, quand je programme un artiste à Palma Rosa, il faut que ça me parle. Il faut que ça me plaise. Et à Montpellier, il y a une culture et une volonté pendant plusieurs dizaines d'années de faire des musiques électroniques. Il y en a qui font beaucoup mieux que moi, et je voulais répondre à une demande d'un public qui voulait un festival rock et de la programmation rock. Et quoi de plus touchant que de recevoir des messages d'une personne il y a une semaine de 72 ans qui nous dit merci de refaire vivre le rock à Montpellier. Ça, c'est extrêmement touchant.
C'est la raison d'être. Ouais. C'est la raison d'être. Et je crois que nos auditeurs ont bien compris que même si tu t'en défendais, tu aimes bien la complexité quand même. C'est sans doute ton côté sportif de haut niveau. Hein. T'aimes bien quand c'est compliqué, j'ai l'impression.
Ouais, mais quoi de plus satisfaisant de faire des choses compliquées qui nous plaisent surtout et pas aller vers la facilité et que ça marche.
Malgré cet amour, est-ce que tu es inquiet pour l'avenir ? Parce que tu sais qu'en ce moment, il y a des gros débats dans ce métier. Et dans ces débats, un de ces enjeux, c'est de dire qu'il n'y a peut-être plus de modèle pour les festivals avec ces coûts de cachet, de scène et même des techniques, des fluides, l'énergie qui sont de plus en plus importants. Et donc, Jérôme Treurel d'Evécherie nous disait que son point mort était à plus de 110% de la billetterie, je crois, aujourd'hui. Est-ce que toi, tu es inquiet pour ce modèle ou est-ce qu'au contraire, tu es serein ? Enfin, tu te projettes comment ?
Alors justement, c'est marrant que tu me parles de ça parce que début décembre, avec Jérôme, on a été invité par le groupe Midi Libre et par Repère Méditerranée à participer à une réunion sur l'éco-responsabilité et le business model des festivals. Et avec Jérôme, on a pris la parole sur ce dernier sujet. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, c'est quasiment plus tenable. Moi, effectivement, si je ne remplis pas 110% de ma billetterie et que je ne fais pas du bar derrière, je perds de l'argent.
Mais pourtant, tu le fais.
Mais je le fais parce qu'il y a une place pour et qu'il faut le faire.
Ça veut dire qu'à un moment, vous allez pivoter, vous allez faire autre chose ou ça veut dire que vous êtes inconscient ?
Non, on fera pas autre chose. On espère pouvoir dialoguer plus avec la ville de Montpellier pour obtenir une jauge supérieure, tout en maintenant le confort des festivaliers toujours. Alors, on sera jamais un festival énorme, on sera jamais les charrues. On a envie de garder cet ADN indie pop rock à Montpellier. Mais c'est sûr que la croissance du festival est nécessaire et c'est pour ça aussi qu'on passe sur 3 jours cette année.
Ok. Bah oui, bien sûr. Et 3 jours et qui ne joue plus dans l'après-midi, qui commence plus tard aussi pour pas avoir le soleil.
Ouais, qui commence un peu plus tard, un format 16h minuit plutôt que midi minuit. Ouais,
ouais, logique. Ouais. Logique. Allez, tu la connais, hein, la dernière question de Sold Out. Tu connais bien ce podcast et tu sais bien qu'on pense aux jeunes gens qui sont à ta place et qui, alors, font pas nécessairement du sport de haut niveau en étant adolescent, mais qui ont envie de se faire une place dans ce métier. Tu leur donnerais quoi comme conseil ?
D'avoir faim. D'être curieux, de s'intéresser à tout, de s'intéresser à tous les métiers qui sont autour de la musique, qui gravitent autour. Pourquoi un technicien va utiliser tel câble ? Pourquoi un agent d'artiste fonctionne comme ça ? Pourquoi il y a 10% de commission ? Voilà. C'est être curieux, avoir faim, enfoncer les portes ouvertes et les fermer. Essayer de rencontrer le maximum de gens et surtout ne pas avoir peur de faire sa place et ne pas avoir peur de se tromper. C'est ce que je dis à toutes mes équipes à chaque fois, trompez-vous, c'est pas grave, on s'en fout, trompez-vous, apprenez et je pense que c'est comme ça qu'on avance.
Et jamais blasé non plus, hein.
Jamais, surtout pas.
Surtout pas, hein.
Non.
Bon allez, on passera fort fort à toi fin août, hein. C'est en même temps que Rock en scène, hein, je crois, c'est
ouais,
ça.
Ouais, exactement, on s'échange les artistes.
On va dire ça comme ça. Voilà. Bah, c'est chouette, on passera très fort à toi, on passera
Marc.
Dire bonjour et puis on prendra des nouvelles.
Avec plaisir.
À bientôt. Merci d'être venu jusqu'à ce micro. Ciao.